VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Nord. Trois militaires français sont morts dans un accident d'hélicoptère en Libye, a annoncé aujourd'hui le président français François Hollande, confirmant ainsi pour la première fois la présence de soldats français dans ce pays. La Libye connaît une instabilité dangereuse, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes, a affirmé le président Hollande. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement dans ce pays, a-t-il souligné. En Libye, un membre des forces spéciales du général libyen Khalifa Haftar, basé dans l'est du pays, a déclaré à l'AFP que les soldats français sur place étaient des conseillers. En Tunisie voisine, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence instauré en novembre dernier. Le point avec Chérubin Dorsil.
La mesure annoncée hier par la présidence entre en vigueur demain 21 juillet. Elle accorde aux autorités le droit de prendre toute mesure susceptible de sauvegarder l'ordre public et la sécurité nationale. Notamment, elles pourront interdire les grèves, empêcher certains rassemblements, fermer provisoirement des commerces et exercer un certain contrôle sur les médias. L'état d'urgence a été instauré en Tunisie en novembre dernier suite à un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts en plein Tunis. C'était le 3e attentat de l'année revendiqué par Daesh. Les djihadistes ont récidivé en mars de cette année en attaquant des installations sécuritaires à Ben Gherdan, ville limitrophe de la Libye.
Afrique australe maintenant, 21e conférence internationale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud. Alors que la pandémie a déjà fait plus de 30 millions de morts, les participants à la rencontre de Durban ont fait le constat que les recherches d'un remède prendront encore du temps. En attendant, il faudra poursuivre les efforts de prévention. Le docteur Zogo, un médecin s'occupant de personnes vivant avec le VIH à Cape Town, en Afrique du Sud, nous parle des perspectives dans ce domaine.
Juste avant l'ouverture officielle, il y avait des associations et des organismes réunissant les malades de VIH et avec un message strict disant s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, il n'y aura pas moyen de stopper le sida. Et c'était un message lancé pour que le financier puisse mettre la main à la pâte pour qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans les domaines. L'Organisation mondiale de la santé a pris la nouvelle stratégie de pouvoir tester et soigner. Mais déjà, ici en Afrique du Sud, on parle d'appliquer cette nouvelle stratégie au plus tard au mois de septembre. Et il y a déjà des discussions au niveau des pays des BRICS. Les BRICS réunis, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ils voudraient voir au niveau des BRICS comment implémenter cette nouvelle stratégie.
Le docteur Zogo, joint à Durban en Afrique du Sud. Au Zimbabwe voisin, le président Robert Mugabe accuse le chef de file de la Fronde sociale d'inciter à la violence. Le numéro 1 zimbabwéen a pour la première fois réagi aux déclarations du pasteur Evan Mawarire depuis que des appels aux grèves et aux manifestations se multiplient dans le pays. Les détails avec Eddie Sango.
Robert Mugabe affirme ne pas connaître cet homme de Dieu qui a réussi par ses diatribes à s'imposer comme chef de la Fronde. Il remet toutefois en cause ses qualités de ministre de l'Évangile, car pour lui, un véritable prédicateur baserait son message sur la paix plutôt que sur la contestation sociale. Monsieur Mugabe a violemment critiqué le pasteur Evan Mawarire lors des obsèques d'un responsable gouvernemental à Harare. Il l'a accusé d'inciter à la violence. Les pasteurs, loin de s'en prendre directement au président Mugabe, a lui réaffirmé la nécessité de trouver des moyens pacifiques pour résoudre la situation. La crise économique s'est aggravée cette année avec la sécheresse. Des millions de Zimbabwéens se contentent des petits commerces et les pasteurs accusent depuis l'Afrique du Sud les pouvoirs de mettre des hommes à ses troupes. Le Zimbabwe a connu ces dernières semaines une série de manifestations et de grèves, un mouvement rare dans ces pays contrôlés d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. Aujourd'hui, 3e jour de la Convention nationale du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio. Donald Trump est désormais le candidat officiel du parti au présidentiel de novembre après son investiture à ce poste mardi par les délégués à la Réunion. Le milliardaire veut maintenant souder les républicains avant d'affronter aux élections Hillary Clinton, la candidate présumée du parti démocrate. Retour sur l'investiture de Donald Trump hier à la convention avec l'un de nos envoyés spéciaux à Cleveland, Idrissa Sedoudia.
Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui préside Escalité, la convention républicaine de Cleveland, déclarant la victoire de Donald Trump. Avant cela, chaque chef de délégation, par ordre alphabétique, s'était présenté devant le micro pour annoncer la répartition des délégués de son État, tout en sacrifiant au folklore habituel, en déclarant son propre État, pour ainsi dire, le plus beau et le plus grand de tous. Cédant aussi à la tradition, l'ordre alphabétique a été suspendu quand approchait le nombre magique des 1237 délégués, et ce afin de donner la chance à New York, l'état natal de M. Trump, de lui permettre de franchir officiellement le cap des délégués requis. L'honneur a été donné à son fils, Donald Trump Jr., un délégué de New York lui-même, qui avait à ses côtés ses sœurs Ivanka et Tiffany, ainsi que son frère Eric. On craignait encore une saute d'humeur de la délégation du Colorado qui avait quitté la salle pour protester contre la procédure du vote du règlement intérieur. Mais elle est restée cette fois-ci et pour donner calmement la majorité de ses votes à Ted Cruz. Après le vote d'hier, entérinant officiellement sa candidature, c'est demain jeudi que Donald Trump doit se présenter devant les délégués pour leur dire qu'il accepte leur investiture. Mais sans attendre, M. Trump a tenu de New York et dans une vidéo s'adresser aux délégués pour les remercier, pour leur dire le grand honneur que cela représentait pour lui et aussi se vanter du nombre sans précédent de voix qu'il a récolté pendant les primaires.
Together we've achieved historic results with the largest vote total in the history of the Republican Party.
Ensemble, nous avons obtenu des résultats historiques avec le plus grand nombre de voix jamais obtenues dans l'histoire du Parti républicain. C'est un mouvement, mais nous devons aller jusqu'au bout. Donald Trump a prédit la victoire en novembre en déclarant « Je travaillerai dur et ne vous décevrai jamais », avant de conclure avec son nouveau slogan « L'Amérique d'abord ». Son colistier, Mike Pence, a été nommé par acclamation candidat à la vice-présidence. Cela dit, l'affaire du plagiat du discours de 2008 de Michelle Obama par Melania Trump, la femme du milliardaire, a défrayé la chronique pendant toute la journée d'hier, le camp Trump refusant systématiquement de reconnaître qu'il y a eu plagiat. Idrissa Sedoudia, Cleveland, Ohio.
Actualité américaine toujours, après 2 ans de lutte contre le groupe État islamique, les États-Unis battent mercredi et jeudi le rappel de leur coalition militaire internationale anti-djihadiste réunie à Washington, alors que le groupe État islamique, lui, multiplie les attentats dans le monde. Anne Albertson.
Pendant 2 jours, le secrétaire d'État John Kerry et le secrétaire à la Défense Ashton Carter vont accueillir une quarantaine de leurs homologues, notamment les Français Jean-Marc Ayrault et Jean-Yves Le Drian, dont le pays vient d'être frappé. L'organisation ultra-radicale a perdu sa capacité à conserver de grands pans de territoire, mais elle n'a pas perdu sa capacité à mener des attaques, car si l'EI a perdu du terrain en Irak et en Syrie, il a revendiqué ces dernières semaines de terribles attaques à Nice, Istanbul, Bagdad ou Dhaka qui ont fait des centaines de morts et de blessés. John Kerry revient tout juste de Moscou où il s'est mis d'accord avec le pouvoir russe sur une coopération accrue entre les deux puissances pour tenter de sauver la trêve et lutter contre les djihadistes. Les mesures concrètes adoptées par la Russie et les États-Unis n'ont pas été divulguées afin de poursuivre le travail de l'ombre vers la paix, selon les mots du chef de la diplomatie américaine, qui ne cesse de prôner le dialogue avec Moscou, allié du président syrien Bachar al-Assad.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.